L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Un petit garçon d'à peine 4 ans dort, bercé par le bruit et le rythme régulier de la locomotive qui l'emmène vers Vienne. Nous sommes en 1860. Le tchou-tchou de la machine à vapeur réveille à peine l'enfant. Il doit être 3h ou peut-être 3h15 du matin cette nuit-là. À quelques centimètres de lui, sa mère est allongée à ses côtés. Elle est dénudée. Ou alors, le pli de sa chemise de nuit légèrement remontée sur sa jambe laisse croire, se mêlant au drap, qu'elle est dénudée. L'enfant, de ses grands yeux, regarde sa mère. Peut-être son attitude alanguie laisse apercevoir le bout d'un sein. Cette image d'une extrême sensualité, d'une nudité extravagante pour le jeune enfant, attise ses sens. Le petit garçon est à peine réveillé. Peut-être est-il dans un demi-sommeil, dans un demi-rêve. Toujours est-il qu'il se rendort, bercé par le bruit des wagons roulant de son village natal de Freiberg, en République tchèque, vers Vienne. Et cet enfant, vous le connaissez, il s'appelle Sigmund Freud. Ce rêve d'une extrême puissance pour le jeune Freud façonnera pour toujours notre nouveau monde à l'aube du XXe siècle. Car il y aura bien un avant et un après Sigmund Freud. Nous sommes au cœur d'une nuit de 1860, vers 3h du matin. C'est l'heure H de notre histoire. Pour bien comprendre ce qui va se passer à l'aube du XXe siècle, il faut se plonger dans le Paris des années 1800, alors que près de 6000 femmes, souffrant de ce qu'on appelle l'hystérie, agonisent littéralement dans le quartier spécial des incurables de la Salpêtrière. L'immense hospice parisien, autrefois le plus grand au monde, a hébergé successivement et tout au long de son histoire les mendiants, vidant de cette façon les inopportuns des rues de Paris, mais aussi les femmes condamnées à la prison ou les filles de joie. Enfermées derrière ces murs, derrière des barreaux, ces folles, abandonnées à elles-mêmes, gisent à moitié nues dans les immondices. L'être humain, aux confins de sa dignité, dignité du seuil de la raison, dignité de laisser faire. Leurs mains crispées s'accrochent aux barres de fer les retenant captives. Le regard vide, ces folles échevelées, enchaînées parfois, se jettent sur la médiocre pitance qu'on leur tend. Pour tout repas, une soupe froide et quelques déchets. L'odeur est nauséabonde, le spectacle insoutenable. C'est là, dans cet immense bâtiment surplombant la rive gauche de la Seine à Paris, que près d'un siècle plus tard, le professeur Jean-Martin Charcot, éminent neurologue dont on dit que sa raison confine au génie, c'est là qu'il étudie et classe avec une méthodologie rigoureuse ces milliers de femmes et leurs symptômes liés à ce qu'on appelle l'hystérie, c'est-à-dire les maladies dont on ne connaît pas l'origine. Son travail méticuleux, scientifique, sera fondamental pour changer le regard que toute la société pose sur ces femmes, mais aussi sur elles-mêmes. Pour cela, il faut remonter quelques années en arrière et retrouver ce petit garçon endormi dans un train. Sigmund Freud s'appelle alors Sigismund Sklomo Freud. Son père juif est un petit négociant en laine sans grande envergure. Il a deux fils d'un premier mariage lorsqu'il épouse la jeune Amalia. Alors que 7 enfants suivront, le premier-né de ce jeune couple, le petit Sigismund, est littéralement adulé par ses parents. Sa mère parle de lui comme d'un génie. Elle l'appelle Sigi mon or, mon petit prince du monde. Dès sa naissance, un jour de mai 1856, ses parents prêtent à Freud un destin exceptionnel. À l'époque, dans les rues de la capitale viennoise, il est coutumier de croiser l'une ou l'autre diseuse de bonne aventure. Elles vous attrapent par la manche, vous prennent la main et, contre quelques pièces de monnaie, vous comptent votre destin. Alors que la mère de Freud tient par la main son jeune enfant et se promène au cœur du quartier juif, traversant la Judenplatz en direction du Danube, une de ses femmes lui saisit la manche en l'accostant. Le regard habité par sa prédiction, elle lui affirme « Votre petit, ce sera un génie. Il marquera l'humanité. » Porté par ces mots, de retour à la maison, la maman de Sigismund, folle de joie, partage cette prophétie avec son époux. C'est certain. Le couple a engendré un enfant des dieux. Et c'est vrai qu'il est adulé, ce bel enfant. Même son père soutient l'idée en déclarant « Notre petit est appelé à un brillant avenir » et en annonçant à qui veut l'entendre. « Il y a plus d'intelligence dans son petit doigt de pied que dans mon esprit. » Il précise aussi avec tendresse, mais il n'osera jamais me contredire. C'est donc admiré par ses parents que le petit Freud grandit, privilégié, face à des frères et sœurs au nombre de 7 après lui, même si sa mère mène 10 grossesses. On lui réserve une chambre seule. Les autres enfants se partagent l'espace restant. L'appartement de cette famille aux revenus modestes n'est pas bien grand. La vie s'organise néanmoins autour de l'enfant prodige. Parce qu'il est intelligent, le petit Sigismund. Et si les ressources manquent un peu, les parents du jeune Freud, de cet enfant tellement doué, déploient des trésors de ressources pour soutenir sa formation intellectuelle. À un tel point que c'est le père de Freud, les premières années, qui devient son précepteur. Ce père maître d'école, lieu de la connaissance et du savoir, Freud va le placer sur un piédestal. Très vite, l'enfant précoce affirme son autorité et il l'atteste sur sa fratrie. Il est parfois abrupt avec ses sœurs, vérifie leur lecture, leur interdit de jouer du piano quand ils travaillent. Le jeune Freud peut être intransigeant. Il est vrai qu'il est souvent premier de classe, impatient lorsque les choses ne vont pas assez vite. Curieux de tout, ayant soif d'apprendre, de comprendre, de découvrir, il étudie auprès de son père le latin et le grec et se passionne pour l'archéologie. La société viennoise dans laquelle le jeune Sigismund Freud grandit est un peu austère. Le conformisme de la capitale austro-hongroise est pesant. Cette ville impériale est pourtant cosmopolite. Elle foisonne de talents depuis Mozart et Beethoven et rayonne sur l'Europe. Strauss, Schubert, tous se bousculent pour jouer dans les plus beaux théâtres de la ville. Dans l'imagination du voyageur, Vienne l'élégante, sous l'aura de l'impératrice Sissi, multiplie les styles. Les clichés de cartes postales, de cafés baroques et de pâtisseries gourmandes que l'on déguste dans des salons aux dorures impériales. En réalité, en cette fin du XIXe siècle, Vienne semble faire peser sur les épaules de Franz Ferdinand, roi de Hongrie et empereur d'Autriche, le poids d'un système féodal d'un autre âge. Il semble que le monde soit à l'aube d'un changement et la société viennoise ne le perçoit pas encore. De l'intérieur, elle est d'une austérité farouche et d'une rigidité écrasante. Cette société, aux idées étroites, ne plaît pas beaucoup à Freud. Le jeune homme vit mal ses premières années à l'université. Il s'habitue difficilement à l'atmosphère feutrée des amphithéâtres autrichiens, se sentant exclu des nationalités qui l'entourent. Pour la première fois de façon si marquante, Sigismund se sent juif au cœur d'une société où le nazisme a fait son apparition. En 1877, gommant son appartenance juive trop évidente, Sigismund Sklomo Freud décide de se faire appeler Sigmund Freud. Porté par l'ambition de sa mère, rêvant d'ascension sociale, il se lance dans des études de médecine qu'il suit sans grande passion. Il peine un peu, mais 3 ans de plus que la normale, à obtenir son doctorat. Alors qu'en ce mois d'avril 1882, les rayons de soleil commencent à réchauffer les berges du Danube, que les parterres du château de Schönbrunn se remplissent de leurs plus belles couleurs, que les lilas fleurissent, Sigmund, cet après-midi-là, se prépare à retrouver sa sœur Anna. Les jeunes gens ont prévu de rejoindre quelques amis sur les rives du Danube. Parmi eux, une jeune femme brune, à la peau claire, la silhouette fine et longue, suscite dès les premiers regards l'intérêt du jeune homme. Oh, la jeune fille est discrète. Ses grands yeux noirs et expressifs sont la promesse d'une belle âme. Elle s'appelle Martha Burnes. Freud, alors âgé de 26 ans, tombe immédiatement amoureux. Les fiançailles secrètes sont organisées très rapidement, dès le mois de juin suivant. La jeune femme n'est pas particulièrement jolie, mais Sigmund voit en elle l'épouse parfaite. Il lui écrira d'ailleurs ceci. « La nature avait voulu te faire échapper au danger de n'être que jolie. » En réalité, dans cette Vienne de la fin du XIXe siècle, Martha représente parfaitement le modèle conforme de l'époque. Elle est la petite-fille du grand rabbin de Hambourg et son père juif pratiquant est le premier à occuper un poste proprement universitaire. Freud, lui, est diplômé, mais désargenté. Sans pour autant se détourner de sa trajectoire, il se lance dans la recherche médicale. Très vite. Grâce à ses travaux de recherche, il obtient une bourse. Laissant Martha quelque temps encore auprès de sa maman, livrée à son amour et à ses rêves, le jeune Freud part pour la France. Pendant 4 ans, les jeunes fiancés vont s'écrire intensément. 1539 lettres au total et c'est avec tendresse que chaque fois, Sigmund s'adresse à Martha en l'appelant « ma petite princesse, mon trésor, ma Martoune ». Il lui écrit plein de promesses. « Je deviendrai un grand savant et je rentrerai à Vienne avec une grande auréole. » Patience, patience.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de Sigmund Freud, le célèbre médecin autrichien qui bouleversera pour toujours, à l'aube du XXe siècle, la pensée psychique, bousculant tous les tabous sur la sexualité. Au lendemain de ses fiançailles, Freud, passionné par la psychologie et ayant obtenu sa bourse d'études, quitte Vienne pour la France, à Paris. Il y a le professeur Charcot, ce géant de la science qui étudie l'hystérie et qui enseigne à la Salpêtrière. Freud connaît sa renommée. Dès son arrivée dans la capitale française, il suit ses cours donnés en public devant la Bonne Société Libérale Française et un parterre de républicains. Les idées du professeur Charcot bousculent littéralement le jeune Freud. Ses méthodes aussi. Ce qu'il voit chaque jour lors de ses séances l'interroge. Des femmes hystériques, celles égarées de la Salpêtrière, sont soignées devant un parterre d'érudits et soumises à des séances d'hypnose. Depuis les terrasses de café où chaque jour Freud écrit longuement à sa bien-aimée, il partage ses impressions et il affirme ceci. « Ce génie est en train de démolir toutes mes conceptions, tous mes dessins. » Rappelez-vous, le professeur Charcot soigne les hystériques. Or, depuis l'Antiquité et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les scientifiques associent les symptômes de l'hystérie à la maladie de l'utérus. C'est cette maladie qui serait à l'origine des convulsions. Pour le professeur Charcot, il n'y a pas de lien entre l'hystérie et l'utérus féminin. Pour lui, l'hystérie est une névrose fonctionnelle. La preuve. Lorsqu'il approche ses patientes en utilisant l'hypnose, il fait disparaître temporairement les symptômes de paralysie et de contracture. Pas d'intervention de l'utérus dans son observation. Freud est subjugué par les découvertes du professeur Charcot. Il écrit encore à Martha ceci. « Jamais un personnage n'eut autant d'influence sur moi. » Fort de ses bouleversements d'idées en 1885, Freud détruit ses notes, ses recherches, tout ce qu'il a compilé depuis 14 ans. Lettres, travaux, manuscrits. Tout brûle dans le petit poêle à bois de la chambre de bonne qu'il occupe sous les toits de Paris. Et si ce geste semble excessif, si cela semble vertigineux de ruiner 14 ans de travail, Freud, lui, juge ses idées indignes. Alors il repart à zéro. C'est là que la révolution immense de notre époque contemporaine se joue. À l'automne 1886, de retour à Vienne, Freud épouse Martha. La lune de miel des deux époux se passe au bord de la mer Baltique. Les embruns caressent les joues de Martha, l'eau semble moins salée qu'ailleurs. De la main, Freud effleure le visage de sa jeune épouse, lui qui parfois semble sombre et heureux. Quelques années plus tard, même si le manque d'argent se fait sentir et que Freud met sa montre en or au clou, le couple et les trois premiers enfants du mariage s'installent dans le nord de la capitale viennoise. Pas très loin du château baroque de Liechtenstein, au numéro 19 de Bergasse, la rue de la Montagne. À quelques foulées du nouvel appartement, le canal, construit pour éviter les inondations du Danube, vient de s'achever. Ce sera parfait pour promener les enfants, d'autant que la balade est agréable. Devant l'immeuble bourgeois imposant, la rue pavée est élégante. L'entrée, plutôt coquette, donne sur une cour intérieure avant de pouvoir emprunter la cage d'escalier, soulignée par une rampe et un lustre d'une grande finesse. Au premier étage, deux portes se font face. Même si de l'intérieur tout communique, depuis le palier, la porte de gauche mène à l'appartement familial, celle de droite au cabinet médical de Freud. Sur la façade de l'immeuble, une plaque renseigne sur les horaires de consultation. Elles ont lieu chaque jour, de 8h à midi et de 15h à 21h. Passionné d'archéologie depuis l'enfance, Freud remplit son espace de travail de masques, de statuettes grecques, égyptiennes, africaines, d'objets hétéroclites, chinés semaine après semaine, plusieurs fois par semaine parfois, chez les antiquaires du centre-ville. Dans son bureau, il a recouvert un lit court d'un tapis brocanté chez un petit antiquaire. Proche de la populaire place Graben, le vendeur lui a certifié qu'il venait d'Iran, d'un village appelé Shiraz, d'où son nom, tapis de Shiraz. Il a été tissé à la main, probablement par des peuples nomades. Ses tons briques, or et bleu, ainsi que quelques coussins dépareillés ajoutés à l'ensemble, créent une certaine harmonie. La pièce est inspirante, simple, chaleureuse. Un jour de 1889, Freud reçoit une patiente dans son bureau. Alors qu'il a abandonné depuis un certain temps l'hypnose, laissant la place à la parole seule pour plonger dans les profondeurs de l'individu, sa patiente lui dit « Éloignez-vous, ne me touchez pas, écoutez-moi ». Il se retire pour que la parole devienne l'acte thérapeutique lui-même. Freud invente à cet instant le divan. Il abandonne définitivement l'hypnose et ne retient d'elle que la position couchée du patient sur un lit de repos. Il s'installe alors derrière le patient, de sorte qu'il puisse l'observer sans être vu de lui. C'est là que la parole prend tout l'espace. Ce flux de parole libre qui permet de plonger jusque dans les tréfonds de l'individu. Cette parole, appelée cathartique, parce qu'elle libère, assigne à la sexualité une place fondamentale. Elle détermine la vie psychique. Dans son cabinet, Freud reçoit la bourgeoisie de Vienne, des patients atteints de névrose, de maladies des nerfs, de neurasthénie, d'hystérie. Ce cabinet devient un véritable laboratoire de travail. Il compile, écrit, note toutes ses observations. Il travaille chaque jour sans relâche et retranscrit la nuit avec une méticulosité toute scientifique ses observations cliniques. Ses patientes jouent un rôle capital dans l'élaboration de ses théories. Il applique à chacune cette cure innovante par la parole. Et elle permet à Freud d'élaborer sa pratique et sa théorie de la psychanalyse. Poursuivant avec le même esprit de recherche, Freud se lie d'une amitié nourrie d'une grande admiration avec le médecin allemand Wilhelm Fliess. Il est otorhinolaryngologiste et pense que le rôle du nez est d'une importance cruciale dans la sexualité. Freud échange sans cesse avec le praticien, toutes les nuits. Il écrit plusieurs heures, méthodiquement, de minuit à 2h du matin. Il compile ses observations cliniques, imagine, transpose, devine, affirme à son confrère « Nous découvrirons peut-être des océans ». Les deux hommes se retrouvent dans des cafés de la capitale autrichienne pour des discussions tantôt posées, tantôt enflammées, auxquelles ils donnent le nom de « congrès ». Ils échangent leurs nombreuses idées, s'emballent parfois, se posent incrédules et repartent de plus belle. Freud élabore des théories sur la bisexualité, détaille la théorie de la séduction, décrit les premières théories de l'appareil psychique. Les deux hommes tâtonnent, cherchent, adoptent des théories extravagantes, puis rectifient leurs erreurs. C'est ainsi, au cœur de cet échange entre Sigmund Freud et Wilhelm Fliess, que se construisent doucement les premières hypothèses, celles qui révolutionnent l'histoire humaine de notre civilisation. Freud écrit à Wilhelm ceci. « T'ai-je déjà révélé le grand secret clinique? Je suis encore tout sans dessus-dessous, à peu près certain d'avoir résolu le problème de l'hystérie et de la névrose obsessionnelle en trouvant la formule du choc sexuel et de la volupté sexuelle infantile. » Freud pense que toute névrose a pour origine une séduction réelle vécue dans l'enfance. Il invente la théorie du fantasme. L'hystérie est habitée par des troubles, des fantasmes. C'est elle qui invente des séductions qui n'ont pas eu lieu. C'est la naissance de la psychanalyse. Et Freud, face à ses observations, à ses idées, ne se contente pas d'être un homme de laboratoire. Il ne se contente pas d'observer ses patients de l'extérieur. Il applique à lui-même des questionnements identiques. Il est habité par cette plongée intérieure, par ses propres interrogations. Et la réponse se trouve dans le fantasme de ce petit garçon de 4 ans, allongé aux côtés de sa maman dans ce train qui roulait vers Vienne. Fantasme. Vous rendez-vous compte à quel point ce terme est devenu courant? À propos de ce souvenir, Freud écrira « J'ai trouvé en moi, comme partout ailleurs, des sentiments d'amour envers ma mère et de jalousie envers mon père. » Dans la même démarche d'introspection, il essaye aussi la coca, cette nouvelle molécule permettant de libérer la pensée des patients. Aujourd'hui fléau, dès ses débuts, on utilise la cocaïne pour interroger les tréfonds de l'âme, parce qu'elle libère. Freud teste la poudre blanche, mais tombe rapidement sous sa dépendance. Martha s'inquiète. Freud la rassure. Grâce à sa force mentale, il parvient à s'en libérer. Mais il est contraint d'utiliser des subterfuges. Il se met à fumer jusqu'à 20 cigares par jour.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous propose de suivre le parcours extraordinaire d'un des plus grands intellectuels de ce début de XXe siècle, Sigmund Freud, qui a révolutionné la pensée que l'homme se fait de lui-même. Fantasme, inconscient, pulsion. Vous rendez-vous compte à quel point ces mots font partie de notre vie? Les découvertes de Sigmund Freud sont révolutionnaires. L'hystérie, cette maladie de femme associée depuis l'Antiquité à une maladie de l'utérus, serait en réalité l'expression de troubles non exprimés, des troubles liés aux souvenirs refoulés de l'enfance. L'hystérie trouverait ses fondements dans la sexualité et inventerait des séductions qui n'ont pas eu lieu. C'est là que la psychanalyse se crée. Par la parole libérée, le sujet s'interroge sur lui-même et découvre en lui les réponses. Mais surtout, le sujet est habité par un autre que lui. C'est là, précisément, la révolution freudienne, l'existence de cet inconscient qui pourrait nous gouverner. Là, Freud ose se mettre en rupture. Et il est inébranlable. Lorsque Freud est confronté à la découverte de cet inconscient puissant, autonome, agissant, lié aux parties les plus obscures de l'individu, il pourrait prendre peur. La découverte est effectivement abyssale. Certains chercheurs, face à ces convictions, à cette découverte, se tiendraient au bord du gouffre. Freud, lui, plonge avec passion dans cet inconnu, guidé par son immense curiosité et le sentiment profond d'être un génie pour la postérité. Et c'est précisément ce qui bouscule. Freud accentue l'idée que l'homme est conditionné par des forces qui lui échappent, qu'il est guidé par un autre sujet que sa raison ne maîtrise pas. Mais pour l'esprit humain, la perte de cette maîtrise est tout à fait insupportable. Ses détracteurs, ses confrères ricanent dans les amphithéâtres. Freud observe les haussements d'épaules, les mines renfrognées et dubitatives des membres du corps professoral. Petites lunettes sur le nez, costume sombre et col de chemise impeccable, ces érudits le moquent. Il est jalousé sous l'effet de cabale et il est juif, entouré de confrères juifs. Freud a conscience que cela pourrait lui être reproché. Et puis, il souhaite que sa théorie sorte du cercle juif dans lequel, accompagné d'amis, de confrères, d'érudits, il évolue. Alors il ouvre son cercle. Certain de son génie, il poursuit sa voie et théorise. Lui qui a étudié le grec détourne la tragédie de Sophocle pour transformer son héros Œdipe en un héros coupable de désirer inconsciemment sa mère au point de vouloir tuer son père. Par là même, il lie la psychanalyse au destin de la famille bourgeoise moderne en destituant le père. Et Freud ajoute à l'Œdipe de Sophocle le personnage de Hamlet, prince chrétien mélancolique, coupable de ne pas parvenir à venger son père. Œdipe, figure de l'inconscient. Hamlet, figure du conscient. Il est là, le basculement de l'image du père. Le petit garçon désire sa mère et jalouse son père. Il faut tuer symboliquement le père. Et Freud se souvient du basculement de ce père qu'il avait placé enfant sur un piédestal. Il avait alors 11 ans et se promenait avec cet homme admiré qu'il instruisait de 1000 connaissances et l'éveillait à la nature, lors d'une chasse aux champignons, comme il l'appelait. Ce jour-là, ce père si merveilleux lui raconta une anecdote. « Quand j'avais ton âge, lui dit-il, alors que je marchais sur un trottoir, un homme m'a apostrophé. Je portais mon shtremel, ce chapeau à bord large en fourrure que portent les Juifs. L'homme en question était catholique, il m'a heurté, faisant tomber mon shtremel dans le caniveau et m'a lancé violemment « Descends de là, sale juif !» En entendant ce récit, le cœur du jeune Freud se serra et il demanda à son père « Et qu'est-ce que t'as fait ?» Et là, le père de Freud lui répondit « Je n'ai rien fait. Je suis descendu du trottoir et j'ai ramassé mon chapeau dans le caniveau. » Pour Freud, ce récit est insupportable. C'est une blessure terrible. Elle est là, la désacralisation du père. Cet homme de si grande ampleur pour le jeune Freud tombe dans cette déchéance morale en ramassant son chapeau dans le caniveau sans même réagir. Freud, adulte, utilise sa canne pour éloigner ou frapper celui qui l'approche ou lui manque de respect. Dans ses travaux et tout au long de sa recherche, Freud s'entoure d'amis, d'images paternelles parfois, d'éminences avec qui il échange. Son esprit ne trouve jamais le repos. Il est en ébullition et travaille sans répit. Il a besoin d'ouvrir son cercle. Il n'entend pas cantonner ses découvertes à ses seuls amis juifs. Il souhaite transmettre ses théories au plus grand nombre. Un mercredi d'octobre 1902, alors que sur la table, Martha a dressé quelques assiettes pour les petits gâteaux qu'elle a préparés, qu'elle a sorti son service à café et prévu quelques cigares qui patientent dans leur jolie boîte posée sur la table basse du salon, sur le pas de la porte à 9 heures précises, Sigmund Freud, impeccable, accueille ses premiers invités. Ces derniers savent que Freud n'aime pas le retard et qu'il peut être intransigeant. C'est la première réunion de la Société psychologique du mercredi. Et tout le monde est à l'heure. Médecins, écrivains, historiens, tous disciples de Freud, viennent échanger autour d'un sujet central, l'hystérie. On y parle de philosophie, de mythologies anciennes, de maladies mentales, de littérature. C'est un véritable laboratoire d'idées neuves qui se crée ce jour-là, au 19 Bergasse, à Vienne. Ces réunions de la Société psychologique du mercredi se répètent chaque semaine et s'ouvrent aux intellectuels de tous bords. Les disciples écoutent Freud exposer ses idées. Son regard est lucide sur l'existence. Il peut être pessimiste parfois. Il est fasciné par la question de la mort et celle de la sexualité. Autour de la table, les hommes fument le cigare. Martha veille chaque semaine à remplir la jolie boîte du salon. Les disciples de Freud partagent, échangent leurs conceptions, prennent note parfois et goûtent au délicieux gâteau de Martha. Les amitiés intellectuelles de Freud durent quelques années, puis elles semblent non pas s'effriter, mais se briser par des conflits d'idées qui l'éloignent de ses proches. Le célèbre psychiatre suisse Carl Gustav Jung, penseur influent, discute 13 heures d'affilée lors de sa première rencontre avec Freud. Les deux hommes sont passionnés. Leur intelligence est en ébullition. L'échange est brillant et les laisse presque morts, dit Jung en plaisantant. Mais si les deux hommes échangent beaucoup, Jung admet que, et je cite, « Freud est compliqué. Quand il pense quelque chose, il en est convaincu. Moi, je doute. J'ai une formation philosophique, pas Freud. Dès le départ, nous avons des divergences sur certains points. Et très vite aussi, parfois. Certains scientifiques souhaitent s'accorder seuls le mérite de leurs recherches. » À l'occasion de ses 50 ans, Freud reçoit de ses disciples une jolie boîte dans laquelle se trouve une médaille. En ouvrant la petite boîte, en découvrant la médaille de cuivre, Freud est d'abord touché. Sur l'une des faces, ses amis ont fait graver son portrait de profil. Mais c'est ému qu'il découvre sur l'autre face ses mots gravés. Il résolut la fameuse énigme et fut un homme de très grand pouvoir. Ces mots ont été tirés du mythe d'Œdipe de Sophocle, lorsque Œdipe s'adresse au sphinx. La soirée se poursuit, heureuse, passionnante, animée. Les uns et les autres quittent le domicile des Freud. Sigmund remercie chaleureusement ses amis et le soir, étendu au creux des bras de Martha, il lui rappelle ce souvenir. Te souviens-tu à la faculté de médecine ? Je rêvais devant les bustes des professeurs qui ornaient la cour d'honneur. Et je rêvais, imaginant que mon buste y trônerait un jour. Que je serais devenu un grand savant et que j'aurais résolu les énigmes du mystère de la vie. Je rêvais secrètement que les autorités universitaires auraient fait graver sur le socle de mon buste « Il résolut une énigme fameuse et devint un homme de très grand pouvoir ». Bientôt, les échanges nourris au sein de la Société psychologique du mercredi s'imposent auprès de la société scientifique. Des congrès de psychanalyse voient le jour. Le travail incessant de Freud, ses idées, marquent d'abord en Bulgarie, puis un peu partout en Europe. Mais ses théories, ses écrits, ses parutions font couler beaucoup d'encre. Freud ne fait pas l'unanimité. S'il est convaincu qu'une révolution s'opère pour l'humanité, il est en butte au scepticisme de ses contemporains. On dit qu'il est plus intéressé par lui-même que par la vérité. Il se compare à Christophe Colomb, au grand conquérant, explorateur des profondeurs de l'inconscient. Si son intelligence extraordinaire séduit, l'éclairage qu'il apporte au côté obscur de l'âme continue de faire grincer les dents. Cette hostilité profonde pour sa doctrine l'irrite. Oh, bien sûr, il a une aversion pour cette société viennoise, hypocrite, mais il est certain qu'il bouscule tout. Il évoque une sexualité infantile, affirme que l'homosexualité n'est pas un crime ni un péché, encore moins une maladie. Il parle de libido, d'énergie sexuelle, de refoulement, de rêve et de pulsions fantasmées. Il ouvre la porte de la cage qui enfermait jusqu'alors la sexualité. Il est un révolutionnaire et en même temps un bourgeois. Il ne réalise pas que Vienne, à son insu, le façonne. L'effervescence artistique et intellectuelle qui y règne, obscurcie par la montée du nazisme, cette fracture qui s'opère dans la fin de l'Empire austro-hongrois, l'entraîne vers cette capacité de penser la subjectivité. Avec Freud, le monde bascule. Et ils sont rares ceux qui ont pu ouvrir à leurs contemporains des horizons complètement neufs, à changer l'histoire que l'humanité pouvait se faire d'elle-même. Freud, après s'être intéressé à la psyché individuelle, s'intéresse à la psyché collective. Il est bien sur la trace d'une psychologie générale qui ne s'appliquerait pas qu'aux névroses, mais à tout le monde. Après 47 ans passés au 19 Bergasse, Freud, face à l'imminence de la guerre, souhaite quitter Vienne pour Londres. Le régime nazi s'oppose à son départ. Les temps sont incertains. Mais il parvient à faire intervenir personnellement le président des États-Unis et Benito Mussolini pour tenter de faire fléchir Hitler. Le dictateur accorde à Freud de fuir à Londres avec 20 personnes contre une forme de rançon. Son départ lui coûtera 5 000 $. Freud ne les a pas, c'est son ami. La princesse Georges de Grèce, née Marie Bonaparte, qui paie la somme, permettant au maître et à sa famille d'échapper à l'envahisseur en rejoignant Londres. Marie Bonaparte a été la patiente de Freud. Elle l'a toujours défendu face à ses détracteurs. Elle détruit tous les soupçons portés contre Freud par ceux qui ne l'ont jamais rencontré et qui l'imaginent comme un personnage étrange, guidé par de douteuses perversions sexuelles. La famille a souvent reçu leur ami dans le joli chalet de bois qu'elle loue l'été sur les hauteurs de Vienne. Marie répond de Freud comme d'un homme intègre, n'ayant jamais outrepassé le geste et l'attitude juste envers ses patientes. Homme de valeur, Freud évite tout transfert de la patiente amoureuse vers son praticien, piège dans lequel il n'est jamais tombé. Et s'il vit avec la sœur de son épouse, si quelques mauvaises langues affirment qu'elle a pu être sa maîtresse, il semble qu'il n'en fut rien. Freud, en revanche, partage une belle entente intellectuelle avec la sœur de Martha, qui vit avec le couple et passe même ses vacances auprès de lui. Lors de ses retraites estivales sur les hauteurs de Vienne, Freud aime lire dans la grande chaise en osier installée dans le jardin par Martha. Durant de longues heures, Freud écrit, lit, se promène avec les enfants. Il aime inventer de nouveaux jeux et, comme son père l'avait fait avant lui, il initie ses enfants aux joies de la nature. En cette année 1938, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale qui va secouer toute l'Europe et les pays alliés, c'est un homme malade qui traverse la Manche, accompagné d'une vingtaine de personnes dont il a établi la liste. Ses proches, son médecin et sa famille, des servantes, des infirmières, les sœurs de Freud, étrangement, ne figurent pas sur la liste. Voilà sans doute un acte sombre de l'histoire qui ne trouve pas d'explication. Mais si Freud est malade, son allure, comme toujours, est soignée. Col blanc et costume impeccable. Cheveux blancs et barbe parfaitement taillée. Ses jolies lunettes rondes soulignent ce visage dont les traits, désormais, sont ceux d'un vieillard. Si Freud donne de lui une image de dignité, il souffre atrocement. Une tumeur à la bouche, depuis longtemps déjà, ponctue son quotidien de douleurs infernales. Il a subi plus de 36 opérations ces dernières années, notamment l'ablation d'une partie du palais. Il porte une prothèse qu'il appelle le monstre. C'est Anna, sa fille, qui l'aide à la placer. C'est elle aussi qui sera à ses côtés cette dernière année de 1938. Elle est son assistante, son infirmière, sa secrétaire, d'une certaine manière, sa muse. Plus jeune, Anna a été la patiente de son père. Leur complicité est évidente. Malgré ses nombreux enfants, Freud l'appelle « mon unique fille ». Elle est la 6e des enfants du couple. Et cette grossesse n'a pas été désirée. Elle fait tout pour être connue. Le praticien, fidèle au célèbre mythe de Sophocle, la surnomme « mon Antigone célèbre », en référence à l'Antigone qui guidait Œdipe. Si Anna fut la patiente de son père, elle est aussi son héritière spirituelle. Institutrice de formation, elle est la seule de ses filles à exercer un métier. Elle va créer une école dans laquelle elle pratique à son tour la psychanalyse de son père en l'adaptant aux enfants. En devenant la pionnière de la psychanalyse pour enfants, elle étend véritablement le champ de son père. Il apparaît comme une évidence pour Anna d'avoir très tôt accès à la psyché de l'enfant. À deux reprises, Freud psychanalyse sa fille. Certains jugent cette analyse incestueuse. C'est au cours de ce travail qu'Anna affirme et révèle son homosexualité. Son père, qui lui avait toujours interdit de succomber aux hommes, la pousse à s'assumer. À Londres, Freud doit se faire à l'idée de sa propre mort. C'est Anna qui va l'accompagner dans l'euthanasie, dans sa mort. Et elle apparaît avec beaucoup de dignité. Pour passer dans l'autre monde, Sigmund Freud convoque un de ses amis et à l'aide d'une douce morphine, glisse doucement vers la mort. Explorateur des profondeurs de l'inconscient, Freud aura éclairé le côté nocturne de l'âme. Si certains diront que la psychanalyse invente les maladies qu'elle prétend guérir, Il est une critique posée à l'époque qui retient l'attention, critique émise par un adversaire du mouvement féministe naissant. L'idée que si les femmes sortent du modèle de la famille patriarcale, la société entière risque d'être anéantie par un virus de féminisation et d'abaissement des valeurs viriles. Voilà la grande peur opposante. En réalité, Freud ouvre la voie aux femmes. Par l'acceptation de leur sexualité, il leur donne une voix. Il brise les tabous de la sexualité, libère la sexualité, permet aux femmes de s'émanciper. Initiateur d'une des plus grandes aventures intellectuelles du XXe siècle, en permettant cette libération de la femme, il nous rapproche de notre humanité, celle qui nous distingue les uns des autres, en prônant l'épanouissement personnel, quoi qu'il en coûte pour soi-même et pour la société. Être un homme, dans sa spécificité, dans sa particularité, avec ses blessures, ses affres, ses forces et ses richesses, et dans l'expression libre de soi-même, voilà l'apport immense de ce médecin autrichien à notre société. Fantasme, libido, refoulement, lapsus, rêve, acte manqué, oubli, voilà les mots qui font partie de notre quotidien. Qui parle en moi ? Voilà. Voilà la question posée par Freud à l'orée de ce siècle. Voilà pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Armelle Gissène.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.